France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Olivier Arnay. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
La Turquie peut-elle jouer un rôle dans la défense européenne? C'est la question que nous poserons ce matin alors que certains dirigeants appellent à se rapprocher d'Ankara, seconde armée de l'OTAN en nombre d'hommes, puissante industrie de défense, fournisseur d'armes à l'Ukraine. La Turquie se positionne en partenaire incontournable. Mais pour quel type de coopération précisément et à quel prix? Alors que le pouvoir vient d'arrêter son principal opposant, le maire d'Istanbul, et qu'il réprime sévèrement la contestation. Nous en discuterons avec nos invités. Didier Billon, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, où vous dirigez le programme Moyen-Orient-Afrique. Votre ouvrage « La Turquie, un partenaire incontournable » est paru aux éditions Erol en 2021, on est pile dans le sujet. Et à vos côtés, Aurélien Denisot, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également, vous êtes chercheur associé au programme Turquie et Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des Relations Internationales. Et votre dernière note porte sur le parti d'opposition, le parti républicain du peuple, Phénix ou Chimère, sa renaissance s'est parue récemment, est disponible sur le site de l'IFRI. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Rachel Noto.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Le Pèlerin, qui publiait au début du mois votre reportage réalisé en Arabie Saoudite. À l'occasion de la COP16 sur la désertification qui se tenait en décembre, vous avez tenté de saisir les transformations de la société saoudienne à travers l'un des changements les plus marquants de ces dernières années, celui de la place des femmes. Suppression de la police religieuse et de l'obligation d'avoir un tuteur masculin, possibilité d'étudier, travailler et passer le permis de conduire. On est loin de l'égalité ou d'une véritable émancipation, mais ces nouveaux droits accordés aux Saoudiennes bousculent la société. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire, Rachel Noto, la place des femmes dans l'espace public? À première vue, écrivez-vous, on ne voit que des silhouettes noires partout, mais c'est à première vue.
Oui, en fait, quand je suis arrivée donc, dans le pays fin octobre, j'ai tout de suite voulu me balader dans les espaces plutôt fréquentés par les Saoudiens, monsieur et madame tout le monde, donc dans les parcs, dans les centres commerciaux, dans les rues. Et c'est vrai que à chaque fois, je voyais ces silhouettes noires cachées sous un niqab, donc c'est le voile qui recouvre le visage, donc on ne voit que les yeux. Et je voyais ces yeux à la fois mi-curieux, mi-soupçonneux face à ma présence. Et je m'attendais pas à ça, parce qu'avant de partir, j'avais vu toutes ces nouveaux assouplissements. Il n'y a jamais été question que ce soit obligatoire de porter le niqab, mais c'est vrai qu'avec les ouvertures du pays, il y a un petit relâchement, on aurait pu croire. Et finalement, ce relâchement prend du temps et il faut aller dans certains espaces de la société pour le voir.
Il faut rappeler qu'en Arabie Saoudite, depuis 2020, le port du voile n'est plus obligatoire. Est-ce que vous avez croisé des femmes qui se baladaient dans l'espace public tête nue ou qui portaient par exemple des pantalons?
Alors en fait, il n'y a pas vraiment eu, ça n'a jamais été obligatoire en soi le port du voile. Ce qui est dit dans la loi saoudienne, c'est de porter une tenue décente. Mais globalement, tout le monde, toutes les femmes portent le voile, que ce soit le voile parfaitement mis, avec voilà ce visage recouvert, au voile un peu plus vaporeux. Mais en général, elles préfèrent le porter parce que sinon, on peut vite passer pour une fille plutôt facile, on peut avoir plus de problèmes. Donc pour ne pas avoir de problèmes, on le porte. Même si j'ai rencontré, notamment c'est chez les jeunes saoudiennes, qui aimeraient pouvoir l'enlever, ce voile. Mais pour être, pour se tenir tranquille, elles préfèrent l'enlever. Après, quand elles vont dans
certains...
Le garder, pardon, oui. Par contre, dans certains cafés un peu plus ouverts où voilà, les Saoudiens ont plus l'habitude de voyager, là, si elles se sentent en sécurité et à l'aise, elles vont pouvoir l'enlever.
Alors, les changements se font peut-être d'une autre manière que par le port ou le fait d'enlever le voile. Vous rencontrez une styliste qui est créatrice d'abaya. L'abaya, donc, c'est cette longue robe qui recouvre les vêtements. Elle s'appelle Wad et elle conçoit des modèles avec des couleurs vives, même avec des strass et des paillettes, alors que la norme jusqu'ici, c'est le noir, le bleu marine, le kaki. Est-ce que c'est une évolution qui n'est pas anodine? Est-ce que c'est aussi un marché qui est en plein essor?
Oui, en effet, il y a de plus en plus de créatrices qui développent ce marché, qui peuvent le développer aussi grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire montrer leurs modèles sur leur page Instagram. C'est ce qui marche aussi chez les jeunes aujourd'hui. Et donc oui, petit à petit, les couleurs ont fait leur place dans le pays. Ça ne se voit pas partout. Là, par exemple, cette Saoudienne, je l'ai rencontrée à Jeddah, donc cette ville portuaire sur la mer Rouge, qui était globalement déjà plus ouverte par rapport à Riyad déjà des décennies, il y a bien des décennies. Et oui, donc de plus en plus, on peut voir des abayas bleu, azur, violette. Là, je voyais sur son portant, Wad présenter une abaya rose fluo. Bon, je ne l'ai pas vu porter encore dans l'espace public, mais il y a cette envie, voilà, de garder cet habit un peu traditionnel par respect, parce qu'on se sent plus à l'aise, mais de vouloir l'utiliser comme un accessoire de mode aussi.
Alors, Wad, elle est styliste, vous rencontrez aussi des architectes, une guide touristique, des femmes qui ont pu étudier, qui ont un métier. Est-ce que ça signifie pour autant que ces jeunes femmes sont indépendantes?
Disons qu'elles ont un peu plus de rêves et d'ambitions, elles peuvent les accomplir. Après, ça dépend comment on place le curseur de l'indépendance. À nos yeux, peut-être que ça serait pas forcément le cas. C'est-à-dire que j'ai rencontré voilà cette jeune guide touristique qui rêve de voyager, qui rêve de venir à Paris. En fait, elle avait un peu les étoiles dans les yeux quand elle m'a rencontrée. En soi, elle a le droit. Elle peut demander un passeport sans l'autorisation de sa famille. Elle peut venir, elle peut voyager seule. Maintenant, le poids familial reste très présent pour ces jeunes femmes et elles écoutent aussi beaucoup ce que disent leurs parents ou leurs frères. Donc par exemple, là, elle a ce rêve, elle a ce projet à terme. Elle ne le fera pas tout de suite, je pense.
Dans un parc de la capitale, à Riyad, vous rencontrez Rachel Noto, un groupe de femmes qui s'y retrouvent quotidiennement pour partager un repas. Et les discussions tournent beaucoup, beaucoup autour de la question du mariage.
Oui, elles étaient assez intriguées par ma présence et de savoir qu'en France, en général, les couples et les mariages se font parce qu'il y a de l'amour entre deux personnes, et ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est même pas le cas en fait pour elles. Voilà, je rencontre cette femme qui avait encore les yeux écarquillés parce que le mariage était arrangé, et donc elle reste avec ce mari-là. Pourtant, on peut divorcer. En Arabie Saoudite, j'ai rencontré des femmes qui étaient divorcées. Mais là, j'étais avec ces femmes du parc, je les appelle comme ça. Elles étaient quand même encore très ancrée dans un espace traditionnel. Et donc, c'était inenvisageable, en fait, pour elle de divorcer.
Ce qui ne les empêche pas de se livrer à quelques confidences assez rapidement à l'étrangère que vous êtes quand vous les rencontrez. De quoi parlent-elles? Que racontent-elles de leur mari, de leur foyer?
Tout de suite, j'ai rencontré cette femme. On avait à peine échangé quelques mots et elle me dit « Ah, mon mari... Il dit que je suis grosse et moche. » Elle enlève son niqab, elle me montre son visage. Elle me dit « Tu trouves que je suis grosse et moche ?» Et en fait, ça disait, toute cette phrase disait en fait le contexte dans lequel elle vivait depuis 30 ans avec ce mari. C'est-à-dire que voilà, c'était un mariage arrangé. Tous les deux ne se sont pas choisis. Et puis ben, après, il faut quand même fonder sa famille. Et donc, on vit dans ce contexte-là. Et en fait... on vient décharger un petit peu le poids de cette pression-là dans le parc, avec ces autres femmes qui subissent un peu, qui vivent un peu la même chose.
Et du fait de ces mariages arrangés, il y a très peu d'espace en Arabie Saoudite pour des rencontres entre les jeunes hommes et les jeunes filles, des espaces de socialisation, de rencontres amoureuses aussi. Mais vous décrivez que c'est en train de changer petit à petit. De quelle manière et dans quel lieu?
Alors, ça se fait beaucoup dans les cafés. À Riyad, il y a un nouveau café qui ouvre, j'ai envie de dire quotidiennement, c'est peut-être exagéré, mais c'est un petit peu l'idée. Donc c'est des espaces qui, c'est comme si en fait on allait dans un bar en France. Hein. Donc il y a tous ces espaces là de café. Et surtout, moi je suis arrivée donc à la fin de l'automne et en hiver. C'est la période un peu la plus fraîche en Arabie Saoudite. Et depuis une petite poignée d'années, il y a des événements culturels qui sont organisés par le gouvernement et qui permettent un petit peu ces espaces de socialisation. Donc par exemple, il y a des concerts qui se développe un petit peu dans la ville. Et c'est vraiment le moment tant attendu de festivité pour les Saoudiens et les Saoudiennes. Je repense à cette semaine où il y avait un concert sur le thème de la musique soudanaise. Donc voilà, on imagine une scène avec un chanteur et une foule. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste en Arabie Saoudite et du coup, il y a plusieurs espaces dans cette foule. Il y a l'espace homme où globalement les femmes qui le veulent peuvent se rendre. L'espace famille où là, les membres de la famille se réunissent entre eux, et l'espace femme, où la plupart des femmes restaient encore dans cet espace.
Et donc ces lieux de socialisation mixte se multiplient, et vous racontez qu'on ne s'échange pas les numéros de téléphone, mais on s'échange les comptes de réseaux sociaux. C'est comme ça aussi que se nouent les liens. Alors, il y a celles qui se préoccupent de rencontrer un futur mari, et puis il y a celles qui se préoccupent de leur autonomie avant tout, comme par exemple Hind. Elle a 33 ans, elle est chauffeur de taxi. Comment s'est-elle retrouvée à exercer ce métier ?
Alors, Hint a une histoire très difficile. Je la rencontre par hasard en sortant de l'aéroport. J'entends une petite voix fluette qui taxi. Donc, je saute sur l'occasion. C'est la première taxi femme que j'ai rencontrée. Je savais qu'il y en avait quelques-unes. Et donc, quand je rentre dans sa voiture, je sens cette odeur un peu de renfermé, de cigarette. Je comprends tout de suite qu'elle a un peu une histoire difficile. Donc, j'entame la conversation et j'essaye de creuser un peu plus. Et en fait, Hint vient d'une famille, donc père saoudien et une mère soudanaise étrangère. Et dans son enfance, elle a subi quotidiennement des viols par son père, à partir de ses 14 ans. Puis, elle n'avait aucune solution, en fait. Sa famille lui dit, bon, essaye de ne pas rester seule avec lui, et c'est tout. Sa mère était retournée au Soudan, et ils s'étaient séparés. Et donc, vient enfin le moment un peu de liberté quand l'Arabie Saoudite autorise en fait la fin de la tutelle des femmes, donc elles peuvent s'émanciper, et Hint saute sur cette occasion pour sortir de sa famille, s'en éloigner et commencer à vivre seule. C'est vrai que c'est assez rare en Arabie Saoudite, et il y a encore elle se retrouve vraiment seule. Donc elle a entamé des études de droit qu'elle n'a pas pu continuer parce qu'elle ne pouvait pas réussir à financer, à vivre toute seule ses études d'un point de vue financier. Donc elle a trouvé la solution d'économiser un peu d'argent, d'acheter cette voiture, cette petite Mazda blanche qui a commencé un peu à lui sauver la vie. Et donc elle a commencé à faire des prendre des passagers en voiture et à devenir taxi en attendant que sa situation s'améliore. Et donc j'ai compris en fait que moi j'étais sur le siège passager et à l'arrière, elle dormait le soir sur sa banquette.
Et qu'est-ce que sa situation reste précaire. Elle vous raconte que certains hommes hésitent à monter dans sa voiture quand ils voient que le chauffeur est une femme. Par contre, les femmes peuvent être davantage intéressées.
Alors c'est complètement possible d'être dans une voiture avec un homme et une femme qui ne viennent pas de la même famille ou qui ne sont pas mariés. Il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que dans les mentalités, ça reste un petit peu bloquant. Surtout, j'imagine, pour un homme qui a un peu de fierté, se faire conduire par une femme, de ce qu'elle m'explique. C'était un petit peu difficile. Certains le prennent quand même. Mais par contre, pour les femmes, c'est vrai qu'elles se sentent plus à l'aise. Donc, c'est un peu aussi une belle occasion de se faire transporter, de prendre le taxi avec cette jeune chauffeuse d'une trentaine d'années.
Rachel Noto, l'Arabie Saoudite présidait en décembre, on l'a évoqué, la COP16 sur la désertification. Il faut rappeler que le pays est particulièrement exposé au réchauffement. On craint que les températures y dépassent de plus en plus les 50 degrés dans les années à venir. Quelles sont les ambitions affichées en matière d'adaptation ou de lutte au réchauffement climatique, et comment est-ce que ça fait écho à toute cette dynamique de modernisation du pays ?
L'Arabie Saoudite a vu un petit peu une possibilité, une opportunité de se présenter comme un acteur qui agit pour le réchauffement climatique. C'est un pays qui est vachement menacé. Il fait déjà très chaud toute l'année. On avoisine les 50 degrés. Et d'ici les 3 prochaines décennies, ça risque de s'empirer. Donc il y a quand même un enjeu. Surtout, c'est un pays qui se veut moderne et qui met les moyens pour moderniser son pays. Et il y a aussi une possibilité de le faire pour le changement climatique. Donc c'est ce que veut afficher Riyad, le régime saoudien. Donc pour cela, ils vont essayer de mener des projets, de mettre les moyens dans des projets qui paraissent démesurés. J'avais écrit ce papier sur ce projet de planter 10 milliards d'arbres donc dans le désert. C'est des choses qui se font déjà en Afrique subsaharienne.
Sauf que là, les chiffres sont complètement impressionnants. 10 milliards d'arbres, c'est l'équivalent, écrivez-vous, de l'ensemble des forêts françaises. Alors, c'est à l'horizon de plusieurs décennies, mais avec quand même un objectif de 600 millions d'arbres d'ici 2030.
Voilà.
On en est où d'ailleurs de ce projet ?
C'est difficile à savoir. Globalement, on sait très peu. Ça avance. Voilà ce qu'on nous dit. Mais sur le terrain, il y a des petits projets. Hein. On les voit, ces arbres qui commencent à être plantés. Mais c'est toujours, ça fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on avance des projets. Et puis après, il faudra voir quand on arrivera en 2030 ce que ça donne.
Il y a la vitrine, il y a l'affichage. Et on a du mal à savoir quels sont les moyens engagés. En l'occurrence, concernant des arbres plantés en plein désert, se pose bien sûr la question de l'irrigation. Avec quelle eau, dans le contexte géographique qu'on connaît de l'Arabie Saoudite, avec quelle eau va-t-on arroser ces 10 milliards d'arbres ?
Alors, l'Arabie Saoudite prend vachement le modèle d'Israël avec les usines de dessalement d'eau de mer. Et donc, il y a déjà, sur la côte de la mer Rouge, beaucoup d'usines de dessalement. Et donc, le pays envisage de se servir de ces eaux-là pour irriguer et déployer tout un système d'irrigation jusque dans les plantations d'arbres du désert.
Avec des contradictions à tous les étages sur ces ambitions-là, vous racontez aussi la place démesurée du plastique dans la vie quotidienne des Saoudiens. Alors, sauf au moment de la COP désertification où les participants étaient invités à manger dans des assiettes en carton et à trier à leurs déchets, mais sinon il y a une véritable problématique de pollution plastique en Arabie Saoudite.
Oui, c'est vrai que nous, en plus venant de France où on essaye de diminuer le plastique ou dans les supermarchés, on est censé arrêter d'acheter nos fruits et légumes avec du plastique, mais avec ces papiers en carton. Par exemple, au supermarché, moi j'ai acheté une baguette, ça faisait un moment que je n'avais pas mangé, elle était entourée de plastique. Voilà, c'était assez étonnant. Tout est emballé dans du plastique. Quand on arrive à la caisse, on nous distribue plein de sacs en plastique. En fait, moi, j'arrivais avec mon petit sac en tissu, mais à chaque fois, on me redonnait du plastique et du plastique. Forcément, ça vient du pétrole. Ça permet de continuer l'économie aussi, enfin, d'en profiter. Et oui, voilà, c'est le plastique règne encore en Arabie Saoudite.
Dernière question, la COP sur la désertification était présentée comme un événement majeur pour la diplomatie saoudienne. En interne, quel intérêt des Saoudiens, des Saoudiennes pour cet événement ?
Alors, c'est assez intéressant, c'est que moi j'en ai parlé avec les Saoudiens et Saoudiennes, et pour beaucoup je leur ai appris cet événement.
Ils n'étaient pas au courant.
Non. Après, il faut savoir que surtout à Riyad, il y a énormément d'événements qui se déroulent tous les jours, tous les mois. Donc, ils ont un petit peu l'habitude et ils ne mesuraient pas forcément l'importance de cet événement. Donc, pour beaucoup, oui, je leur ai appris la tenue de cet événement.
Merci beaucoup, Rachel Noto. Votre reportage sur l'évolution de la place des femmes dans la société saoudienne est à lire dans le numéro de Pèlerin paru il y a au début du mois. Et donc, on peut retrouver l'article sur le site internet et ce sur les contradictions des ambitions vertes de l'Arabie Saoudite. Et bien, sont à lire sur le site de La Croix. On fera des liens sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de terrain.
Merci à vous. كله على بالي هرب من أفكاري ما أدري وين مكاني ما أدري وين مكاني كل أوقات الحالي عايشة أنا وحيدة ناسي أنا بعيدة نفسي أنا جديدة راسي أنا تقيلة كل ما يزيد يا سكتك من ناري توجعون لحالي بداوي أوجاعي لحالي أنا واسي ومسي كل مين ولا مين عالم عاشد ومدين الليل
مكاني ما أدري وين مكاني كله على بالي هربة من أفكاري ما أدري وين مكاني ما أدري وين مكاني كله على بالي هربة من أفكاري ما أدري وين مكاني ما أدري وين مكاني كله على بالي هربة من أفكاري ما أدري وين مكاني ما أدري وين مكاني
مكاني qui signifie ma place en arabe. C'est le dernier tube de la chanteuse et rappeuse Jara, originaire de Jeddah en Arabie Saoudite, et c'est avec elle qu'on tourne la page de cette première partie direction à présent la Turquie.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Avrupa güvenlik mimarisi eğer yeniden oluşacaksa bunun tabii ki Türkiye'siz olması.
Si l'architecture de sécurité européenne doit être reconstruite, c'est évidemment impossible sans la Turquie. En d'autres termes, il serait irréaliste de laisser la Turquie de côté. D'exclure une puissance militaire comme la Turquie, c'est un sujet important.
Le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, qui s'exprimait le 27 février à Ankara devant des journalistes. La sécurité européenne est impensable sans la Turquie, martelait à son tour le président Erdogan alors qu'il recevait le premier ministre polonais Donald Tusk début mars. De fait, plusieurs dirigeants européens appellent à se rapprocher de la Turquie depuis que l'allié américain menace de se retirer du continent. Première armée de l'OTAN en nombre d'hommes, fournisseur d'armes à l'Ukraine, détentrice d'une industrie de défense dans laquelle elle investit depuis des années, Ankara a des atouts à faire valoir. Mais quelle pourrait vraiment être la place de la Turquie dans la stratégie de défense européenne? Dans un monde où les alliances se forment moins pour des principes que par intérêt, quels seraient ceux des Turcs? Enfin, le nouveau tour de vis autoritaire opéré par Erdogan contre ses opposants politiques pourrait-il remettre en cause ce rapprochement? On en discute avec nos invités Didier Billion et Aurélien Denizo. Et on commence avec l'édito de Marc Sémo.
Merci Mélanie. Alors effectivement, dans la nouvelle donne d'un possible cessez-le-feu en Ukraine et du déploiement d'une force européenne de réassurance, la Turquie est indispensable. Elle l'est par sa position géostratégique, elle l'est aussi, comme tu le disais, grâce à cette armée qui est la seconde en nombre d'hommes de l'OTAN et avec son industrie de défense extrêmement dynamique. Mais tout le problème, c'est que Erdogan risque de devenir à nouveau difficilement fréquentable. L'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, son principal opposant, marque un virage autoritaire. La Turquie d'Erdogan n'était pas la Russie de Poutine. Elle est en train de le devenir. D'où un embarras des Européens si la répression devait s'amplifier pour écraser les protestations. L'administration Trump, elle, n'a pas cette gêne. Les relations entre Washington et Ankara se réchauffent et s'intensifient. Recep Tayyip Erdogan est salué par son homologue américain comme un bon leader. Le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan, qui est aussi l'ancien chef des services secrets, est dans la capitale américaine pour négocier un retour de la Turquie dans le programme de fabrication des F-35. Elle en avait été exclue après l'achat par Ankara, il y a une dizaine d'années, de missiles S-400 russes. L'unilatéralisme désinhibé de Donald Trump ne peut qu'encourager Recep Tayyip Erdogan dans sa dérive dictatoriale et dans sa volonté de se positionner comme une incontournable puissance régionale. Le président turc, qui avait réussi d'être à la fois un soutien actif de Kiev en lui livrant des drones dès les premiers jours de la guerre et en bloquant les détroits pour empêcher un renforcement de la flotte russe en mer Noire, mais en même temps il continuait à commercer avec Moscou en violation des sanctions. Le président turc avait parié sur un affaiblissement de la Russie, mais maintenant il s'inquiète de voir Vladimir Poutine en passe de remporter à la table des négociations grâce à Trump, ce qu'il n'avait pas gagné sur le terrain. C'est aussi pour cela qu'il veut se rapprocher de cette coalition de volontaires européens. Celle-ci a bien sûr besoin de la Turquie, mais la Turquie a besoin des Européens, et cela leur donne un levier d'action si la répression devait s'intensifier.
Merci beaucoup Marc Sémo pour cette introduction. Justement, j'aimerais qu'on essaie de comprendre, au-delà des déclarations avec ces grands mots sur le caractère indispensable, incontournable de la Turquie, que ce soit de la part des Turcs ou de la part des Européens, est-ce qu'à ce jour, il y a eu une offre concrète de coopération militaire ou industrielle qui a été faite par la Turquie aux Européens, Didier Billion?
Pas à ma connaissance.
Donc on est pour l'instant sur les déclarations d'intention.
Ce qui est important pour l'instant, c'est que lors des grands sommets, le sommet de Londres, la réunion d'hier, la coalition des volontaires, la Turquie est représentée à son plus haut niveau. Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères à Londres, et hier le vice-président turc. Donc ça, c'est un signe très important, parce qu'il n'avait échappé à personne que les relations entre les puissances occidentales prises globalement et la Turquie s'étaient un peu dégradées au cours des dernières années. Donc là, il y a une redécouverte, notamment par les Européens, que la Turquie a un rôle incontournable, comme dirait l'autre, ou un rôle géostratégique. C'est assez classique. Dans toutes les crises, on s'aperçoit, on se réaperçoit pour certains que cette Turquie, décidément, possède, de par sa situation géographique, un rôle tout à fait important. Bon, ça c'est la première chose. Alors ensuite, la deuxième chose, sur les propositions concrètes, cela va dépendre, à mon avis, de la capacité des membres de cette coalition des volontaires, à, en premier lieu les Européens, à se mettre d'accord sur des objectifs très précis. Nous n'en sommes pas tout à fait là, puisque l'Union européenne, une fois de plus, est divisée par ses contradictions. Il faut admettre que la situation et les défis à résoudre sont infiniment compliqués. L'élection de Trump est comme un coup de tonnerre, non pas dans un ciel serein, mais dans les relations internationales. Et les Européens, évidemment, se retrouvent un petit peu isolés, un peu esselés. Ce serait peut-être le meilleur terme. Dans cette configuration, on peut souhaiter, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, c'est que des propositions concrètes soient faites à la Turquie. J'ai toujours considéré que le rapprochement avec la Turquie était une sorte de multiplicateur de puissance pour les deux parties. Bah là, on est au pied du mur. Que fait-on concrètement? Que propose-t-on concrètement? Mais à la condition que les Européens eux-mêmes puissent se mettre d'accord et avancent de façon plus significative. Alors, dernière chose, il est intéressant de constater que ce que vous avez évoqué sur la situation politique intérieure actuelle, avec la destitution puis l'emprisonnement du maire d'Istanbul, ce qui est quand même gravissime du point de vue des libertés démocratiques qui sont déjà bien atteintes depuis de nombreuses années, mais là on franchit un pas supplémentaire. Je pense que si Erdogan a pu se permettre cela aujourd'hui, au mois de mars 2025, c'est pour deux raisons. C'est tout d'abord, l'élection de Trump accroît le nombre des États autoritaires au niveau de la planète, donc pourquoi se gêner? Et deuxièmement, parce qu'il a parfaitement compris que les Européens ont besoin de lui et que lui a besoin aussi des Européens. Marc l'a expliqué fort bien, je suis totalement d'accord.
Signe d'un rapport de force qui est en train de évoluer, on va y revenir. Aurélien Denisot, donc à ce stade, un rapprochement diplomatique de haut niveau, comme le disait Didier Billion. Est-ce qu'on sait du côté turc quel rôle le pays imagine jouer dans la stratégie de défense européenne, dans l'architecture de défense européenne, pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères turc?
Bien, je dirais que, bah, comme le disait Didier Billion, il faudrait déjà qu'on sache en quoi est-ce que les Européens peuvent définir des objectifs pour cette stratégie de défense européenne. Évidemment, au vu de la position géopolitique de la Turquie, il semble qu'elle pourrait se placer comme une espèce de poste avancé à la fois face à la Russie au nord, en mer Noire, et face aux troubles moyen-orientaux, plutôt à l'est et au sud, ou comme interlocuteur en même temps avec ces puissances du Moyen-Orient, avec la Russie. Vous voyez, à la fois rempart, interlocuteur, avec cette nuance également à prendre en compte que la diplomatie turque et la vision turque de la politique étrangère n'est peut-être pas totalement celle que les Européens ont en tête lorsqu'on se rapproche d'elle. C'est-à-dire qu'en Europe, nous avons encore beaucoup une vision des alliances qui est héritée de la guerre froide, ou en tout cas du XXe siècle. C'est-à-dire, nous avons des alliés stables avec lesquels nous sommes supposés être solidaires, et nous avons des adversaires qui sont assez clairement identifiés. Or, on constate que la Turquie mène une politique étrangère qui rappelle beaucoup plus celle des puissances émergentes, par exemple celle, vous savez, du multi-alignement à l'indienne, où l'on peut très bien travailler avec les Russes sur la question de l'énergie et les affronter en Libye. On peut très bien se rapprocher des Européens sur des domaines économiques et en même temps attaquer très durement un gouvernement européen. Et donc, je pense que la Turquie, dans un tel processus de rapprochement diplomatique, gardera en tête avant tout la question de défendre ses intérêts nationaux et donc de voir quel intérêt elle peut en tirer. Donc elle se projette peut-être pas forcément à long terme comme un acteur stable privilégiant une défense européenne. Elle voit plutôt que les Européens sont en demande de partenariat et elle se dit quel avantage on pourrait en tirer, quel avantage mutuel, hein, les Européens et les Turcs peuvent en tirer avantage, quel avantage on pourrait en tirer sans pour autant renoncer à ses partenariats à l'Est, au Nord ou au Sud.
Marc Semo.
Oui, mais dans cette logique transactionnelle qui est réelle, effectivement, la Turquie qui fait un peu du multi-alignement, il y a quand même cette constante de l'OTAN. C'est-à-dire, dans une OTAN où les Américains pourraient petit à petit se désengager, voire pire, la Turquie est fondamentale. C'est quand même un pays qui, pendant des années, et que ça continue, héberge des bombes nucléaires, de l'OTAN américaine sur son sol. C'est un pays qui, dès le début de la guerre en Ukraine, ce qu'on oublie, j'en parlais un peu dans l'introduction, a joué le jeu, et plus que joué le jeu. C'est-à-dire la fermeture des détroits en application littérale de la convention de Montreux de 1936 a totalement empêché les renforts russe en mer Noire, et ça a permis aux Ukrainiens de gagner la bataille de la mer Noire. Si aujourd'hui on parle d'un accord en mer Noire, c'est parce que les Russes cèdent là-dessus, parce qu'ils ont tout à y gagner. Les Ukrainiens, eux, ça y est, ils assurent leur commerce en mer Noire. Mm-hmm. Donc, est-ce que finalement, dans cette logique-là, la Turquie ne se retrouvera pas à jouer un rôle quand même essentiel dans tout le dispositif alors, on ne sait pas encore ce qui va être, mais on en a déjà un certain nombre d'idées, notamment sur le cessez-le-feu aérien et maritime. Bon, stratégiquement, la Turquie est essentielle là-dessus.
Didier Billon.
Oui, bien évidemment. Et ça, depuis le premier jour de la guerre contre l'Ukraine, en réalité. Rappelez-vous que quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y avait eu une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe ukrainien sous l'égide de l'ancien ministre des Affaires étrangères turc, et que des négociations avaient avancé. D'après ce que nous savons maintenant, c'est Boris Johnson, à l'époque à la tête de la Grande-Bretagne, qui avait dit non, ne vous inquiétez pas, amis ukrainiens, nous on va vous soutenir jusqu'au bout, donc n'acceptez aucun compromis avec la Russie. Bon, peu importe, on ne va pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, ça prouve que la Turquie, qui dès le premier jour a condamné sans aucune ambiguïté l'agression russe, je rappelle qu'avant même l'agression russe, Erdogan, quand il a reçu Zelensky un an avant, en 21, il avait déclaré qu'il se battrait pour l'intangibilité des frontières et la souveraineté. Il avait expliqué qu'il était pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et enfin, ils avaient passé un accord sur les livraisons de drones qui ont été bien utile à l'armée ukrainienne quelques mois plus tard. Donc, aucune ambiguïté, mais pour autant, maintien du dialogue avec la Russie, et plus que le dialogue, des accords économiques de diverses sortes. Donc, c'est véritablement ce qu'expliquait Aurélien. Nous sommes maintenant ce qu'on appelle un peu pompeusement dans les nouveaux paradigmes des relations internationales. Les alliances pures et dures avec des droits et des devoirs, c'est terminé. Sauf que, et là j'en arrive à la question de Marx, c'est l'OTAN. Mais à mon avis, l'OTAN aujourd'hui est à contre-courant de l'histoire. Mmh. Alors, elle existe encore. On verra ce que Trump veut en faire de l'OTAN. En tout cas, ce qui est certain, OTAN ou sans OTAN, c'est que je peux vous affirmer qu'en dépit des turbulences qui peuvent exister parfois entre Ankara et Washington, notamment quand les Turcs avaient acheté des S-400 russes, ceux qui s'occupent de politique extérieure, ceux qui s'occupent des affaires politico-stratégiques à Washington, ont toujours considéré que la Turquie devait rester très proche, quelle qu'en soit la forme, peu importe, parce que pour eux, la Turquie est au Moyen-Orient, est au Caucase, est en mer Noire, voire plus loin en Asie centrale, fait partie du dispositif états-unien. Ils ne l'ont jamais abandonné. Et par ailleurs, la Turquie n'a jamais voulu sortir de l'OTAN, contrairement à ce que certains avaient prétendu, parce que c'est la véritable assurance sécurité pour la Turquie. Donc là, il y a effectivement un défi qui se pose à la Turquie, bien évidemment, quant à l'OTAN, c'est clair et net, mais à tout le monde en réalité. Moi, j'entends des chercheurs qui me disent « Ah, mais il faut, nous, Européens, que nous prenions le pouvoir dans l'OTAN ». Ben, messieurs, faites-le, mais je vous souhaite bien du plaisir. Les Américains ne lâcheront pas de cette façon, en tout cas. Et on voit bien le chantage, la logique transactionnelle de Donald Trump sur ce dossier comme sur quelques autres.
Et justement, sur ces logiques-là, vous le dites, et vous le dites dans votre ouvrage, la Turquie n'a jamais eu l'intention de quitter l'OTAN. Elle y a joué néanmoins un rôle que vous qualifiez vous-même de trublion, oui, à plusieurs reprises, en faisant valoir ses intérêts ou son agenda en échange d'accords sur telle ou telle décision, et tout récemment sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'organisation, par exemple. Est-ce qu'il faut s'attendre, dans la perspective de davantage de coopération entre la Turquie et l'Europe, à nouveau cette logique-là? Et si oui, très concrètement, si demain on fait appel à l'industrie de défense turque, par exemple, ou aux soldats, je ne sais, puisque les choses sont encore très floues, eh bien, qu'est-ce qu'il faudra, à quoi faut-il s'attendre en échange en matière de chantage ou de relations transactionnelles, quoi, selon comment on qualifie les choses? Aurélien Denisot, qu'est-ce que la Turquie va faire valoir en échange de son aide?
Ben, on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on proposerait déjà à la Turquie et qu'est-ce que nous attendons de la Turquie, qu'est-ce que nous espérons d'elle. Prenons l'exemple des programmes d'armement, s'il devait y avoir coopération, là on n'en est pas encore là. J'ai tendance à penser déjà que la Turquie privilégierait plutôt le cadre bilatéral, c'est-à-dire que la Turquie pourrait parler aux Européens dans leur ensemble, mais n'hésiterait pas à parler avec des pays qu'elle considère comme lui étant favorable, la Pologne par exemple, la Hongrie, voire pourquoi pas l'Italie en ce moment. Oui, il y a un rapprochement assez net avec l'Italie, vous voyez, et à chaque fois avec cette logique où les Turcs se diraient « nous coopérons » parce que nous estimons que nous pouvons y trouver un intérêt pour nos débouchés, pour nos accords, et un soutien éventuellement pour une politique européenne plus large qui pourrait être sur, par exemple, la libéralisation des visas pour les Turcs qui se rendent en Europe, quelque chose qui est demandé par la Turquie depuis très longtemps. En fait, c'est ce que je voulais dire aussi avec cette logique transactionnelle, c'est que les Turcs raisonnent beaucoup dans un cadre, vous voyez, de coup par coup bilatéral. Vous avez parfaitement raison, Marc, ils ont soutenu l'Ukraine dès le début, mais... Par exemple, les Turcs, le discours qui prévalait n'était pas forcément celui de « nous sommes un bloc occidental solidaire face à la Russie », mais davantage « nous soutenons le droit international », donc la non-violation de l'intégrité territoriale ukrainienne, « nous soutenons l'Ukraine qui est notre amie », c'était le terme qui était employé pour les Ukrainiens.
Et la Crimée était une terre turque ottomane.
et en plus. Et vous voyez, par exemple, comme vous l'avez dit vous-même, pour autant, il n'y a pas eu forcément de sanctions contre la Russie. Je crois que c'est le seul membre de l'OTAN, d'ailleurs, qui n'a pas appliqué de sanctions sur la Russie. Donc, je pense que dans le cadre de négociations avec des Européens, on se retrouverait à nouveau avec cette logique où, d'une part, les Turcs attendraient des avancées concrètes, là où ils pourraient les obtenir, et d'autre part, je pense que les Turcs n'hésiteraient pas...
Vous dites concret, mais par exemple, le fait que oui. La Commission européenne ait annoncé un programme, le programme SAFE, avec 150 milliards à la clé pour réarmer l'Europe, très concrètement, pour l'industrie de défense turque, c'est une perspective de débouché financier.
Potentiel, mais quand on dit concret, il faudrait, vous voyez, que vous ayez des pays qui disent clairement qu'ils sont intéressés par tel ou tel partenariat avec les Turcs, ce qui va évidemment se faire aussi en coulisses, donc nous ne le saurons peut-être que sur le tard. Mais je pense qu'il faudrait, vous voyez, il faudrait qu'il n'y ait pas seulement des annonces, parce que ça fait longtemps en même temps qu'il y a des discussions entre les Européens et les Turcs, et on a un discours chez les Turcs qui aujourd'hui est de plus en plus dans l'optique on ne veut pas seulement des discussions, on veut qu'on nous propose quelque chose de net.
Alors, peut-être c'est un élément d'explication de ces... Il y a des divisions de cette prudence. Et on sait qu'il y a des divisions en Europe vis-à-vis de la Turquie, à commencer du côté de la Grèce et de Chypre, qui se sont toujours opposés à des accords de défense entre l'Union européenne et la Turquie. Je voulais juste vous citer l'éditorial d'un journal grec paru le 19 mars. Les Européens pensent que la Turquie, un pays qui a envahi et occupé 37% d'un État membre, Chypre, qui ne reconnaît pas les frontières maritimes avec la Grèce et qui menace de faire la guerre si notre pays exerce ses droits, pourrait faire partie de la réponse. Et voilà, c'est juste pour donner, c'est un éditorial du journal Ikatimerini, pardon. Est-ce que aujourd'hui, vu le nouveau contexte géopolitique, la Grèce pourrait être amenée à changer de position sous la pression des autres États membres, Didier Billon ?
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, parce que là, on parle de Chypre. Bon, les Chypriotes, pour quelques raisons, sont toujours très remontés contre la Turquie, qu'ils continuent à considérer comme une puissance occupante. Mais du côté d'Athènes, de la Grèce, on peut constater, alors c'est toujours extrêmement fragile et soumis à des variations saisonnières de climat éventuellement, mais actuellement, les relations entre Ankara et Athènes vont plutôt dans le sens d'un réchauffement. Mais ce n'est pas lié à la situation immédiate post-élection de Trump. Ça fait presque un an désormais où il semble qu'en termes déclaratifs, en tout cas, on cherche à arranger les choses. Bon, là aussi, il faut des faits concrets. On voit aussi que les tensions en mer Égée, notamment, sont un petit peu calmées, si je puis dire ainsi. Bon, tout cela est très très fragile, parce que la Grèce a toujours cette capacité, une sorte de droit de veto, si elle le décidait, dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne, ça, c'est une évidence. Mais pour l'instant, elle ne veut pas l'utiliser. Et je pense que la Grèce et l'équipe gouvernementale grecque aujourd'hui voient plus d'intérêt à fluidifier ses relations avec Ankara plutôt qu'à jouer la stratégie de la tension. Les Grecs sont pas idiots. Ils voient bien le nouveau, la nouvelle place potentielle que peut acquérir la Turquie. En ce sens, il vaut mieux être dans le sens du reste des Européens. Je voudrais faire une petite précision sur la question précédente. Qu'est-ce qu'attendent précisément les Turcs? Ben, ils n'ont pas fait une liste, enfin en tout cas pas publiquement, mais je suis d'accord avec ce qu'évoquait Aurélien, c'est-à-dire il faut des actes concrets. Alors, il y a les grandes déclarations de Erdogan. Une des dernières en date, c'est quand même quand il a dit, parce qu'il a le sens de l'humour, parfois, je ne sais pas, il dit « Nous sommes, nous, Turcs, les seuls capables de sauver l'Europe ». En toute modestie. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer les appels du pied de la Turquie à l'Union européenne. Ce n'est pas seulement rhétorique. Je pense qu'il y a une réalité, parce qu'il voit bien que la relation avec les États-Unis n'est pas toujours aisée. La relation avec Poutine, cela a été évoqué, bah, elle est plus compliquée au vu de la réinstallation de la Turquie. De la Russie dans le jeu diplomatique. Donc tout ça est assez compliqué. Des actes concrets, bon, ça peut être les visas, cela a déjà été évoqué. Il y a une obsession des responsables turcs depuis plus de 10 ans, c'est l'accord d'union douanière. Ça serait très concret. Et je crois que c'est pas insurmontable. Ça ne remet...
Plus facile que les visas.
Probablement, absolument.
Mais juste là... pour préciser, il existe un accord, mais il est ancien, 1996.
Oui,
et donc les Turcs demandent une modernisation de cet accord. L'objectif, c'est quoi? C'est de fluidifier les réseaux commerciaux.
Oui, et puis il y a un certain nombre de produits. Alors ça pose question à l'Union européenne. C'est sur les produits agricoles, les services, etc. Donc c'est très compliqué, mais là... Soyons réalistes, c'est une question de volonté politique. Et cette demande, elle est formulée depuis plus d'une décennie. Les Européens ont toujours botté en touche. Bah, là, ils sont au pied du mur. Et ça pourrait être un signe tangible de volonté de mettre sur la table des propositions concrètes. On peut penser à la réactivation du dialogue politique, parce qu'il est en déshérence. Ça, ce sont des signes concrets. Alors après, il faut le décliner. Donc vous voyez, il y a toute une série d'éléments qui pourraient à la fois conforter, bien sûr, la Turquie, certes, mais qui pourraient aussi, dans le cadre de la situation géopolitique du continent européen, aller dans le sens des intérêts européens aussi.
Et la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, juste pour rappel, elle est candidate depuis 1999. Les discussions ont été déclarées au point mort en 2019. Il y a quelques jours, Erdogan à Ankara, au moment de la visite de Donald Tusk, a dit « Seule une adhésion pleine et entière de la Turquie à l'Union européenne peut sauver cette dernière de son impasse en matière de défense. » Là, on ne parle pas de visa ou d'union douanière, on parle d'adhésion à l'Union européenne. C'est un sujet qui revient sur la table, ou c'est de la rhétorique, Aurélien Denisot?
Vous savez comment ça se passe au début, de toute façon, de tout grand dialogue diplomatique. Évidemment, on va formuler des exigences très larges, des exigences maximales. Évidemment, la Turquie, ne serait-ce qu'en rappelant qu'elle frappe à la porte de l'Union européenne depuis, ça va faire bientôt 20 ans, la Turquie se met en position, vous voyez, d'État qui est demandeur et qui en même temps est de bonne volonté, qui dit aux Européens, voilà, on a ouvert un processus avec vous il y a 20 ans, maintenant où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que vous avez à nous offrir justement par rapport à ce processus? Je pense que, de façon réaliste, les Turcs ne s'attendent pas de toute façon à une adhésion pleine et entière, voyez, dans les 3 ou 4 ans qui viendraient. Ça paraît très compliqué. En revanche, il y a même un sentiment un peu d'amertume chez une partie des Turcs, par exemple, de voir que l'adhésion pour la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie a été évoquée aussi rapidement, aussi allègrement par les Européens, alors que les Turcs attendent depuis maintenant un petit bout de temps. J'ajouterai un dernier point, cependant, il y a quelque chose qui complique encore la donne, c'est que j'ai l'impression de constater, notamment chez les nouvelles générations, une certaine désillusion à l'égard de l'Union européenne pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, le fait que ça fait moins rêver que dans cette période libérale des années 90, vous savez, où on croyait beaucoup aux institutions internationales. Ensuite, parce que, eh ben, il y a quand même ce rejet depuis 20 ans. Donc, vous savez, c'est comme dans une relation amoureuse. Quand vous êtes rejeté au bout de 20 ans, faut quand même avoir du cœur pour s'accrocher. Et puis, il y a un troisième point un peu plus pernicieux. Il y a l'idée que, finalement, l'Union européenne, en particulier, on l'entend ça dans l'opposition, a, dans les premiers temps, soutenu plutôt le gouvernement Erdogan. Et aujourd'hui encore, vous voyez, est toujours prête à négocier avec lui sans prendre en compte, bah, typiquement, les manifestations auxquelles nous assistons aujourd'hui. Donc, tous ces, chez des nouvelles générations qui ne sont pas forcément erdoganistes en plus, qui sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis du régime en place, ça a un impact, je pense.
Marc Semo ?
Oui, alors, sur ce point, il y a aussi, avec le rôle que joue la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, dans la coalition des volontaires, il y a cette espèce de second cercle de l'Union européenne, qui était la Commission politique européenne, qui avait été inventée intelligemment par Emmanuel Macron, où on trouve à la fois la Grande-Bretagne et la Turquie. Et en réalité, au-delà de la rhétorique, bah, c'est, en termes de statut symbole, si on est sur le même plan que les Britanniques, c'est-à-dire partenaire étroit de l'Union européenne et partenaire fondamental pour les questions de défense, bah, si on obtient en plus l'union douanière et quelques gestes sur les visas, ça va, on n'a pas besoin d'une intégration à laquelle plus personne ne croit, y compris en Turquie. Mais je voudrais rebondir sur un autre aspect, parce qu'on a beaucoup parlé de la mer Noire, de la Russie, du Caucase, mais aussi le Moyen-Orient, où la Turquie est fondamentale par rapport aux Occidentaux. Mais est-ce que là, elle ne s'est pas mise dans un corner avec le soutien extrêmement appuyé d'Erdogan au Hamas, qui fait que, d'une certaine façon, la Turquie, qui aurait pu jouer un rôle au début, juste après les attaques du 7 octobre, la Turquie, d'ailleurs, était restée très... Ça a été un des rares pays musulmans à condamner sans aucune ambiguïté les attaques. Ensuite, Erdogan s'est lancé dans... a dénoncé les crimes à Gaza, a été l'un des plus en pointe là-dessus. Est-ce que, justement, la Turquie s'est pas mise là, mise dans un corner, et a raté une occasion d'être encore plus indispensable ?
Didier Billon ?
Oui, oui. Oh, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que, alors qu'il y avait véritablement un retour de la Turquie au Moyen-Orient, puisqu'elle avait reconstitué des liens avec des pays avec lesquels elle s'était fâchée depuis une dizaine d'années, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, plus récemment l'Égypte. La dernière pièce du puzzle, c'est évidemment la Syrie. Là, c'est tout récent. Bien. Mais sur la Palestine, la radicalité verbale de Erdogan.
Absolument.
Parce que pendant toute une période, le business commençait, peut-être pas comme as usual, mais on savait qu'il y avait des échanges économiques, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques pourcentages aux élections municipales d'il y a juste un an, puisqu'un parti islamiste l'a vivement dénoncé. Je ferme la parenthèse. En tout cas, cette radicalité verbale ne lui a la cornérisé, comme dit Marc, et l'empêche en réalité de jouer un rôle de médiation. Ça n'a échappé à personne. Les médiateurs aujourd'hui, principalement, c'est le Qatar et c'est l'Égypte. Alors que, évidemment, la Turquie aurait pu jouer un rôle essentiel. Donc, vous voyez, cette sorte d'hubris de la part de Erdogan, cette conviction qu'il est absolument indispensable sur tous les fronts, et puis son caractère un peu parfois imprévisible, bah, lui a joué de bien mauvais tours, parce que sur ce dossier précis, la Turquie ne joue quasiment aucun rôle, ou alors a un rôle totalement mineur. Alors c'est à mettre aussi en relation, et je termine là, sur les grands enjeux de puissance régionale, puisque outre la Turquie, il y a évidemment l'Arabie Saoudite qui monte en puissance avec toutes ses contradictions. Et là, il y a un jeu, un bras de fer latent qui a à jour entre Riyad et Ankara, au-delà même du fait qu'ils se sont réconciliés. Mais enfin, chacun comprend qu'ils sont en même temps très concurrents.
Aurélien Denisot.
Non, juste un tout petit point. Je partage parfaitement l'analyse de Didier, mais je me demande si cette cornérisation n'a pas été aussi voulue par un gouvernement Netanyahou qui, d'une part, était dès le début très radical dans son refus justement de solutions plus politiques, et d'autre part, a visiblement rejeté justement l'option turque au profit de l'option d'autres médiateurs.
Vous écoutez Culture Monde, Didier Billon et Aurélien Denisot sont nos invités pour parler des relations entre la Turquie et les Européens à l'heure où le continent se cherche de nouveaux partenaires. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et le dessin de ce vendredi, eh bien, nous vient de Turquie. Il est signé Halis Doggoz, un caricaturiste qui publie dans son pays et dans la presse internationale. Son dessin évoque le mouvement de contestation qui se déroule actuellement en Turquie. Doggoz a choisi l'image d'un tube de dentifrice en fin de vie que l'on roule et que l'on presse pour en faire sortir le contenu. Mais c'est une foule en colère qui sort du tube. On voit des hommes et des femmes marcher en rang serré, quelques poings en l'air et beaucoup de pancartes. Et plus on presse, plus des gens en sortent. Image peut-être de l'effet contre-productif de la mise sous pression de la société turque. Dessin à découvrir sur le fil de notre compte Blue Sky et sur la page internet de Culture Monde. Je vous laisse peut-être réagir à cette caricature d'un caricaturiste turc, Aurélien Denisot.
Oui, ben c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est une société turque, en effet, sur laquelle on presse de plus en plus, mais où on a un mécontentement croissant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Marc et Didier auront le même sentiment, mais je vous avoue, moi, que depuis l'emprisonnement du maire de maire d'Istanbul, İmamoğlu, je suis par exemple incapable de donner une explication et une analyse rationnelle de cette affaire. C'est-à-dire que je ne vois même pas, voyez, une stratégie politique au vu d'élections qui pourraient avoir lieu dans plusieurs années. On a un autre candidat potentiel, le maire d'Ankara, qui fait jeu égal avec İmamoğlu dans les sondages et qui donc, même si Ekrem İmamoğlu était empêché, pourrait se présenter et peut-être gagner également une élection. Donc est-ce que on a un plan de plus long terme derrière que nous ne voyons pas venir? Est-ce que il y a une espèce de mouvement de panique du pouvoir, de volonté d'enfermer un opposant qui devenait trop populaire? Est-ce qu'on a des gens qui ont fait du zèle dans les équipes gouvernementales? Est-ce que Recep Tayyip Erdogan lui-même a fini par se couper des réalités du terrain? J'ai parlé avec, je vous le dis comme ça, avec quelqu'un qui était assez proche justement du gouvernement au début de l'affaire et qui me disait « on va mettre un administrateur ». Qui me disait « il va y avoir un administrateur qui va être mis ».
À la tête de la mairie d'Istanbul,
à la place du maire arrêté. Or, il semble qu'on ait renoncé à cette option dans les derniers jours, ce qui indiquerait que le pouvoir, n'ayant peut-être pas anticipé l'ampleur des manifestations, aurait reculé un peu. Donc j'ai du mal à donner une analyse cohérente de cette affaire. Et vous voyez, plus qu'une stratégie finement politique en vue de verrouiller complètement le pays, je me demande même si on n'a pas une espèce de... Alors, parler de panique serait très fort, mais si on n'a pas une espèce de réaction un peu sans trop savoir où on va. Voilà, de réaction exactement, de fébrilité sans trop savoir où l'on va.
Eh bien, merci d'avoir déjà posé toutes ces hypothèses. Je vous laisse réagir, Didier Billion. Comment est-ce que vous observez, parce que c'est évidemment une question que j'avais, comment est-ce que vous observez, comment est-ce que vous analysez la décision qui a été prise d'arrêter le maire d'Istanbul?
Je pense qu'il y a un élément d'explication, il y en a probablement plusieurs. C'est la véritable obsession de la part de Erdogan de rester au pouvoir par tous les moyens. On pourrait faire une comparaison avec la situation de Netanyahou. C'est-à-dire que si Erdogan était amené à quitter le pouvoir, on peut imaginer qu'il ait quelques ennuis judiciaires. Donc il veut rester au pouvoir, outre la logique de l'autocrate qui veut se maintenir à son dernier souffle. Cette arrestation est évidemment totalement condamnable. Et au passage, pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment, je constate quand même que les réactions des dirigeants européens et dont les dirigeants français sont assez timides, on va dire ainsi, pour ne pas dire plus et pour ne pas être désagréable. Je crois qu'il y a une sous-estimation de la part du pouvoir de la spontanéité et de l'ampleur et de la radicalité des manifestations. Pour autant, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il y a une crise de régime. Parce que, et je reviens à la caricature, elle est magnifique cette caricature, mais nous le savons bien, quand on sort le dentifrice du tube, on ne peut plus le faire rentrer. Je ne dirais pas la même chose des mouvements de manifestation. Bien sûr, ça marquera les consciences, mais véritablement, je ne veux pas jouer le pessimisme et le pessimiste de service, mais il y a véritablement un manque de débouchés politiques. Il y a un risque d'essoufflement de ce mouvement, si donc il n'a pas de débouchés politiques. Et trois, on n'est pas à l'abri d'un accroissement, d'un renforcement de la répression. Tout ça, c'est sur la table. Il y a un rendez-vous demain, puisqu'il y a une grande manifestation qui est convoquée. Ça sera sûrement une date charnière, probablement. Donc, je reste très prudent. Y a-t-il une tactique? Je crois qu'il faudra nous réinviter pour une deuxième émission, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, probablement.
Mais vous expliquez, Didier Billon, dans votre ouvrage, que depuis son arrivée au pouvoir, Erdogan a une conception du pouvoir selon laquelle posséder la majorité ne veut pas dire prendre en compte les contestations, mais par ailleurs qu'il a aussi une stratégie qui consiste à polariser, à appuyer sur la polarisation de la société en se disant qu'il en sortira gagnant, parce que il y a une base électorale, il y a une base sociale qui est favorable structurellement à l'AKP en Turquie. Ça a fonctionné pendant des années. Est-ce qu'on n'atteint pas une limite de cette stratégie-là?
La limite, on l'a bien vu il y a juste un an, au mois de mars 2024, dernières élections municipales. Toutes les grandes villes du pays ont été gagnées par le Parti républicain. Donc, la stratégie, je dis bien la stratégie, ce n'était pas une tactique de surfer sur la partie la plus conservatrice de la population, etc., a bien marché pendant quasiment, enfin, pendant 20 ans d'ailleurs, 21 ans même, c'est derrière maintenant. Donc, le pouvoir turc est en fait beaucoup moins puissant qu'il n'y paraît. Bien sûr, il est toujours à la présidence. Bien sûr, il a une majorité au Parlement. Bien sûr, nous savons qu'une grande partie des médias sont quand même, pour le moins, contrôlés et proches du pouvoir. Bien sûr, c'est lui qui dirige les appareils de répression. Donc, tout cela est vrai. Ne prenons pas les désirs pour des réalités. Mais pour autant, il y a un effritement de sa base sociale électorale, d'autant que la situation économique qui prévaut lui fait perdre une partie de ses électeurs qui n'ont pas voté pour lui pour des raisons religieuses ou idéologiques, mais ils ont voté pour lui à l'époque où tout fonctionnait bien ou à peu près bien dans l'économie. C'est plus le cas aujourd'hui.
La chanteuse turque Lil Zey avec cette chanson parue en 2024, Madem Oil, mais que j'ose à peine prononcer sous le contrôle de nos invités. Puisque c'est le cas, nous retrouverons, voilà plus ou moins ce qu'évoquent les paroles de cette chanson. Merci beaucoup à nos deux intervenants, Aurélien Denisot. Je rappelle votre dernière note pour l'IFRI, la renaissance du Parti républicain du peuple, le CHP dont il était justement question. Phoenix ou Chimère, point d'interrogation. Didier Billon, la Turquie, un partenaire incontournable, c'était paru aux éditions Erol en 2021. Merci beaucoup Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série intitulée « Santé mentale, urgence mondiale ». Il sera question de nouveaux regards sur la psychiatrie en Europe, des migrants et des exilés face à des blessures invisibles, de la place de la santé mentale dans l'humanitaire. Et enfin, nous nous intéresserons au cas libanais, une société au bord de la crise de nerfs. Et dans un instant, les midis de culture.